Elle est 14h.
Il est 14h sur le 666, c'est la deuxième heure de Sweet Home Chicago, numéro 839 aujourd'hui. On vient d'entendre Smokin' Dynamite. Voici une autre nouveauté Frenchy, on en a déjà écouté un extrait dans l'émission en fin d'année dernière, voici un autre quand même. Et puis juste après, on retrouvera Stan Nobar Pacha pour une interview en direct dans la radio. Voici un extrait de Old City, Fred Natal, l'album de Fred Natal Blues Band Old City. Ça s'appelle Dear Little Boogie. Blues Band, extrait de l'album Old City. Voici maintenant un premier extrait de l'album de Stan Nobar Pacha, Ready to Go. Je passe pas tout de suite le titre, l'album sera un petit peu plus tard. Voici Meeting You, non, sans vous préciser que c'est un album entièrement composé d'instrumentaux. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Stan, puisqu'il sera au téléphone juste après le morceau qui vient, ne vous gênez pas, vous allez sur le Facebook Marc Mazon, puis voilà, vous posez vos petites questions. Voici le guitariste officiel, le tortilleur officiel de Benoît Blueboy, Stan Nobar Pacha, pour un extrait de ce Ready to Go avec Meeting You. Et voilà l'extrait, le premier extrait de cet album qui s'appelle Ready to Go, monsieur Stan Dubar Pacha. Stan est au téléphone, je crois que ça fonctionne. Allô Stan ?
Oui, je suis là.
comment ça va ?
Écoute, très bien.
Bon, très bien parce que c'est le début de l'année et puis que c'est un renouveau, je sais pas, ou particulièrement très bien en ce moment, ou normal, quoi.
Très bien parce que c'est un début d'année et puis parce que l'année s'annonce plutôt pas mal. Au niveau professionnellement parlant, je joue avec des gens un peu variés, tout ça, et les perspectives sont plutôt sympas à venir. Quoi, voilà.
Ben voilà, c'est ce que je te propose de développer au cours de cette petite interview. Parce que d'abord, y a peut-être encore quelques auditeurs qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent mal. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots comment tu es venu à la musique finalement ? Tu as commencé la guitare assez jeune, vers l'âge de 12-13 ans, c'est ça ?
Ouais, écoute, j'ai commencé la guitare à 13 ans et puis. J'ai appris tout seul, je suis autodidacte en fait, et puis assez vite je me suis tourné vers le blues parce que c'est un truc qui m'attirait plus naturellement et je me sentais plus concerné par ce style de musique, même si j'aime plein d'autres styles de musique.
Ouais.
Et en fait j'ai commencé à jouer dans des groupes, je sais pas, quand j'étais ado, quand j'avais 15-16 ans, et puis de fil en aiguille j'ai commencé à jouer avec des groupes différents, et en fait le premier groupe vraiment important entre guillemets avec qui j'ai joué, enfin qui m'a ouvert des perspectives un peu professionnellement parlant, c'est un groupe qui s'appelle Alcotest Blues Band en fait. Mmh.
C'était dans les années 80, c'est ça ?
Et puis après j'ai rencontré Benoît Blueboy, Steve Verbeck, enfin voilà, de fil en aiguille je suis devenu un guitariste professionnel de blues.
Voilà, tu as envie d'ailleurs. Tu parles de Alcotest Blues Band, ça remonte aux années 80, c'est ça,
à peu près, on va dire
90.
Début des années, oui, fin des années 80, début des années 90, voilà.
D'accord. Alors tu vis ta musique finalement, tu arrives, tu es peut-être un des rares en France, je sais pas, à être musicien professionnel, mais également à prétendre ne rien faire d'autre pour pouvoir vivre justement.
Voilà. Un des rares, je sais pas, c'est vrai que j'ai l'impression que plus ça va, plus on est. Plus on devient moins nombreux. Surtout dans le blues en fait. C'est vrai que dans le circuit blues.
C'est dans le circuit blues que je posais la question, effectivement.
Dans moins d'endroits notamment à Paris, ce qui est un problème. Parce que moi j'habite Paris et j'estime que normalement on devrait avoir plein d'endroits pour jouer, et ce qui est malheureusement pas le cas. Et plus ça va, plus je joue en province, voire même de temps en temps à l'étranger, quoi.
C'est une remarque qui revient assez souvent dans la bouche des musiciens parisiens, c'est que finalement, là où on trouve les meilleurs concerts, les meilleurs endroits pour jouer, c'est pas dans Paris même, quoi.
Non. Enfin, c'est sûr que si tu veux, pour les gros concerts, il y a des salles comme l'Olympia, le Zénith, tout ce que tu veux. Mais pour parler vraiment d'endroits sympas et de clubs, et pour la musique live, et surtout pour le blues, il n'y a quasiment plus d'endroits, quoi. Il y avait un endroit qui était super, qui était dans les puces à la limite de Paris, qui s'appelait le One Way, qui a fermé.
Le One Way, oui, de Christine.
Ça, il ne reste plus qu'un endroit, et qui est dans des conditions particulières, c'est l'Utopia, en fait, quoi.
Oui, qui est devenu un club pour fumeurs, d'ailleurs, qui n'est pas franchement un bar ouvert à tout le monde. Il faut une carte de membre, c'est un peu compliqué.
C'était en plus en dehors d'être le seul club de blues sur Paris, quoi.
Voilà, donc l'état des faits, l'état des lieux, on va dire, par rapport à tes débuts, puis par rapport au fait que tu aies côtoyé Benoît Blueboy il y a déjà fort longtemps. Tu continues à jouer avec lui d'ailleurs, rassure-moi.
Oui, bien sûr.
Tu fais partie du line-up de son dernier album Funky Halo.
Exactement, ouais.
Et donc tu es un tortilleur à part entière, c'est ce que tu disais hein, dans ton interview dans Soul Bag au mois de septembre dernier. Je revendique le titre de tortilleur à vie.
Ah oui.
Tu persistes, oui, et tu signes ça.
Benoît, maintenant ça fait. Je joue avec lui depuis 92, donc tu vois, ça fait.
Ça fait.
Je n'ai même plus compté, mais ça fait un moment, quoi. Bah,
ça fait un paquet d'années, on va dire, 92, après plus de 18 ans en tout cas. Hein,
voilà, exactement.
Très bien. Tu as joué également avec des artistes américains, j'imagine que tu as des bons souvenirs à nous communiquer, peut-être des anecdotes, je sais pas, des gens en particulier avec qui tu as eu des affinités sur scène ou sur des enregistrements.
Écoute, des enregistrements avec des Américains, malheureusement, j'en ai pas fait. Par contre, des concerts, j'en ai joué avec quelques-uns. Mais la tournée qui m'a le plus marqué, c'est il y a 3-4 ans, j'ai joué avec une chanteuse américaine qui s'appelle Nora Jean Brusseau.
Oui.
En fait, qui est une chanteuse de Chicago et et qui avait une tournée en Europe, en Espagne, et il y avait deux guitaristes, et il y a un guitariste qui n'a pas pu venir, j'ai jamais su pour quelle raison.
Je me souviens, c'était il y a fort longtemps.
Et en fait, ça s'est très bien passé, c'est ouais. Un super souvenir, notamment parce que c'est une chanteuse incroyable, et que le groupe était assez exceptionnel, je trouvais, quoi. Et surtout, il y avait... Il y avait Bob Stroger à la basse, qui est un bassiste mythique qui a joué avec Muddy Waters et plein de gens.
Dis-moi, c'était pas avec le guitariste Jimmy Dawkins, le deuxième avec qui tu aurais joué pendant cette tournée-là ? Non, c'était pas celle-là.
C'était un guitariste qui s'appelait Max Valdenehau, qui est en fait, bizarrement, qui est un guitariste argentin, mais qui est installé depuis très longtemps à Chicago et qui joue avec pas mal de gens là-bas, quoi. Mm-hmm. Et en fait, ça s'est très bien passé, et surtout, on a fait une tournée en Espagne en jouant dans des endroits en plein air devant... plusieurs milliers de personnes, et c'est un souvenir assez incroyable pour moi, quoi.
Donc collaboration avec cette chanteuse, il y en a eu d'autres, j'imagine, peut-être aussi des rencontres avec des guitaristes. Là, ce sera peut-être le moment d'évoquer quelques influences. Côté influence, qui sont en fait les guitaristes de ton petit panthéon personnel, parmi les gens qui jouent toujours, on va dire
qui jouent toujours, oui. Bah, là, ça commence à devenir rare. Dans les gens qui sont encore en activité, il y a des gens que j'aime bien, comme Hanson von Lomberg, Otis Grand. Après, si tu veux, c'est vrai que mes influences, la plupart de mes influences, c'est des guitaristes qui sont... à part B.B. King.
Oui, bien sûr.
B.B. King, qui pour moi est quand même le plus grand, quoi. Et moi, j'ai vraiment... Je revendique, je revendique l'influence des trois kings, quoi. Sir Albert, Freddy et B.B. Et puis... Il y a T-Bone Walker aussi, que j'aime beaucoup. Il y en a un paquet, quoi. C'est dur de faire un choix.
Oui, parmi les créateurs.
Il y a aussi y a un guitariste qui m'a vraiment marqué, que j'ai vu jouer quand j'étais jeune, c'est Luther Allison. Mm-hmm. Mais parce que c'était vraiment du Chicago Blues pur jus. Et c'est un des premiers mecs que j'ai vu live qui jouait vraiment cette musique-là avec une ferveur. Ça m'a marqué parce que j'ai vu plusieurs fois dans les années 80. Et en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître, même de faire des bœufs avec lui. Et c'est un type très chaleureux et très sympa en plus.
Stan, oui, je partage ton opinion. J'ai eu l'occasion de le côtoyer également un tout petit peu, hein, deux ou trois fois. Et Luther Allison, ça fait partie aussi des artistes que je vénère, on va dire. Un garçon qui est parti trop tôt, comme beaucoup.
Et puis, bon, c'est quand même... pour moi, c'est pas très loin d'une légende, d'une légende, quoi. Parce qu'en fait, il a vraiment côtoyé les plus grands à son époque. Et puis il est resté un moment en France, en fait. Et c'est vrai que quand il est mort, ça nous a tous fait un petit choc, quoi. Quand même.
Ouais, c'était en 1997, il y a déjà plus de 13 ans, tu te rends compte, le temps passe, une heure folle. Hein. J'interviens parce qu'il y a également d'autres personnes qui vont te poser des questions, Stan, parce que sur le Facebook, il y a des auditeurs qui suivent en direct. Il y a quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Fabio Izquierdo, du groupe Flying Saucers, qui te salue d'ailleurs, et qui te dit « Et Shaking Blues, je m'en souviens, Stan, c'était pas avant Alcotès, par hasard, Shaking Blues ?»
Shaking Blues, en fait, j'ai joué, j'ai fait des remplacements avec eux, mais j'ai jamais fait partie du groupe.
Ah, d'accord.
Voilà. Mais c'est vrai que je les connais bien, parce que c'est vraiment à cette époque, entre guillemets, où je suis rentré dans le circuit, donc voilà, je les connaissais bien, mais on peut pas dire que j'ai fait partie du groupe. Intrinsèquement parlant, quoi.
Une autre intervention, mais de la part de Jean-Pierre Savoux, maintenant de Virus de Blues, qui nous informe que Nora Jean Grouseau a repris. Eh oui, il y a des gens qui écoutent, hein, en direct, qui dit qu'elle a repris son nom, en fait. C'est Nora Jean Wallace, maintenant, comme avant. Comme à cette période, je pensais que tu évoquais cette année-là, mais je pense pas. C'était le Chicago Blues Festival 1988. Ça nous ramène de nombreuses années en arrière, où effectivement, il y avait Eddie King et Jimmy Dawkins à la guitare. Mais je me souviens pas du bassiste Bob Stroger dans cette tournée-là. Donc, Nora Jean Wallace à nouveau. Et puis, qui nous dit également que tu as joué avec le fils de Muddy Waters, Bibi Morganfield, non ?
Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est un beau souvenir parce qu'on a fait, deux ou trois belles tournées avec lui. Et puis surtout, il avait des compositions personnelles, mais il reprenait quelque chose de son père. Et il y a des moments, parce qu'en fait, en plus, il lui ressemblait physiquement. Ouais. Et il y a des moments, c'était assez émouvant et c'était assez prenant. Je me souviens de quelques moments sur scène où je le regardais, je me dis putain, c'est incroyable, c'est vraiment la réincarnation de son père, quoi.
Alors, tu joues également dans des formations en France. Je ne sais pas si tu travailles toujours avec Mama's Biscuit, en tout cas, ça a été le cas.
Non, en fait, j'ai joué très longtemps avec ce groupe et j'ai arrêté il y a deux ans.
Voilà.
Pour diverses raisons, c'est qu'en fait, moi, j'étais vraiment à la première mouture du groupe, et petit à petit, le personnel s'est renouvelé, et on avait un peu des désaccords.
C'était après le départ de Thibaut Chopin, j'imagine.
Oui. Puis même après, je suis resté un moment, mais je trouvais que c'était bien. En plus, on a fait pas mal de dates ensemble. Mais
vous avez fait un très bel album, d'ailleurs, je m'en souviens bien. C'était il y a 2-3 ans.
Oui, je suis d'accord. C'est vraiment un bel album. Et puis, on a vécu plein de choses sympas ensemble, mais tu sais, ça faisait presque, je sais pas, 6-7 ans qu'on joue ensemble et qu'on avait fait beaucoup de dates. Et moi, j'avais envie de me rendre disponible pour d'autres projets. Et voilà, quoi. Donc, en fait, d'un commun accord, on a arrêté, mais on est resté entre mon père. Quoi.
C'était avec Véronique Soria. Et là, maintenant, tu joues avec une autre chanteuse qui s'appelle Loretta. Non, je dis une bêtise. Non, Loretta,
bêtise. Je crois que tu dois parler de Loretta and the Bad Kings.
Ouais, non, je... Voilà.
Voilà. Non, c'est j'ai eu l'occasion de faire le buff avec eux, mais en fait, c'est un autre guitariste qui est super, d'ailleurs, qui s'appelle Anthony Stelmazac.
C'est ça. T'as buffé avec eux, je mélange tout, excuse-moi. Voilà. Ça sera la deuxième ou troisième erreur de l'émission, il y en aura peut-être d'autres. J'avais d'autres questions à te poser, Stan, mais c'était surtout par rapport à ton album, ton album Ready to Go, là, parce qu'en fait, c'est ton premier véritable album sous ton nom. Je voulais te demander d'abord la question qui me brûle les lèvres. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant d'enregistrer un album sous ton nom, finalement? Parce que ça fait quand même longtemps que tu joues maintenant, mais toujours en sideman.
Oui, parce que, si tu veux, c'était presque un rêve enfoui, mais je me disais, oh pff, non, à quoi bon. Et puis en fait, si tu veux, ce disque existe parce que le guitariste qui joue, le deuxième guitariste qui joue sur l'album, qui est un type qui s'appelle François Fournet, en fait, on était voisins et c'est lui qui m'a convaincu. En fait, ce disque, il existe vraiment en grande partie grâce à lui, parce qu'il m'a dit, écoute, c'est dommage que t'aies pas fait de disque. Et si tu veux, moi, je te donne un coup de pouce, on travaille ensemble et on loue les studios. Enfin, c'est lui qui m'a un peu poussé au cul pour que ce projet voie le jour, quoi. Et il y a un moment où j'ai pas hésité très longtemps. Et puis, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui t'aide et qui t'épaule, et puis je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Et puis en fait, du coup, voilà, ça s'est passé un peu comme ça, quoi.
François Fournet, c'est lui qui joue dans le groupe Blues de Paris, c'est ça?
Exactement, ouais, c'est le guitariste du groupe Le Blues de Paris, quoi. Et c'est vrai que si tu veux, ne chantant pas, je me disais, est-ce que le fait de faire un truc uniquement instrumental, ça serait assez intéressant pour les gens? Et puis finalement, j'ai pris comme un challenge, et puis on s'est mis à travailler dessus, et puis l'enthousiasme aidant, on s'est dit, bon, allez, allons-y, fonçons.
Alors justement, la question naturellement qui suit, c'est pourquoi ne pas avoir invité de chanteur sur ton disque?
C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit un moment, mais je me suis dit, je sais pas si je ferai d'autres disques, donc c'est mon premier disque, et je me suis dit, autant faire quelque chose qui me ressemble le plus, qui soit le plus personnel, et vu que je chante pas, je me suis dit, autant mettre la guitare en avant. C'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit, je vais faire une partie instrumentale, une partie chantée, puis je me suis dit, il y aura toujours des gens pour trouver que c'était mieux de faire tout instrumental, donc en fait, on a pris le parti pris. Avec François, de se dire, bon, voilà, on va assumer, on va faire un truc complètement instrumental avec la guitare en avant et pas de chanteur.
Chose qu'il avait déjà faite avec justement l'album de Blues de Paris qui est sorti il y a 2 ans, si je me souviens bien.
Exactement, exactement.
Alors, voilà, un album instrumental. Bon, tu évoquais tout à l'heure le chanteur Hanson van der Berg, tu évoquais Otis Grant. Ce sont également des guitaristes qui ne chantent pas. Il en existe d'autres, on pourrait ajouter Ronnie Earl aussi. Est-ce que c'est quelqu'un.
Oui, bien sûr.
Quelqu'un qui t'inspire aussi?
Oui. Oui, tout ça, c'est les gens que j'ai écoutés. Bah, forcément, hein, ces guitaristes de blues, en plus, qui font des choses instrumentales, ça me concerne au premier chef. Et puis, je suis leur travail, c'est sûr, quoi.
Alors, en tant que non-chanteur, en tant que guitariste, toi qui joues depuis 18 ans, tu l'as dit tout à l'heure avec Benoît Blueboy, le fait de chanter en français ou le fait de chanter en anglais, hein, dans le cadre d'un groupe de blues français, ton avis par rapport à ça, tu te poses plus la question ou tu penses qu'il...
Écoute, moi je me pose plus la question parce que, si tu veux, ça fait longtemps que je travaille donc avec Benoît et aussi Steve Herbeck qui chante en français. Je peux comprendre, et en fait je pense que pour moi il y a un truc très important, c'est la qualité des paroles, en fait. Parce que c'est vrai que la langue française, ça se prête pas forcément au rock ou au blues, etc. Et je pense que s'il y a une manière de contourner le problème, c'est en ayant des paroles intéressantes et assez drôles, et en ayant vraiment un univers, je pense que ça peut le faire. Mais c'est vrai que si tu veux, il y a plein de gens qui considèrent que le blues chanté en français, ça n'a pas de sens. Moi, je suis pas de leur avis, mais je pense que, tu vois, il en faut pour tous les goûts. Et en tout cas, moi, je me pose plus la question, parce que ça fait des années que je travaille avec des gens qui font des... qui chantent des chansons de blues en français, et enfin, moi, pour moi, ça me paraît un truc naturel, quoi, d'être derrière des compagnies.
Il y en a d'autres, il y a Fred Chapelier qui a longtemps chanté en français, il y a Xavier Pilac, on peut citer Raoul Ficelle, on peut... voilà.
Oui, bon. Exactement, il y en a de plus en plus, donc je sais pas, pour moi, c'est même pas un débat. Par contre, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient réticents à la langue française et que ça leur fasse bizarre, mais en tout cas, pour moi, ça me choque pas.
Est-ce que, je vais te poser un avocat du diable, est-ce que, d'après toi, enfin, selon ton feeling à toi, je sais que tu es un bon anglophone, bien meilleur que moi en tout cas, est-ce que tu penses pas que le fait justement qu'il y ait des gens qui soient réticents à écouter du blues en français, on les retrouve parmi les gens qui maîtrisent mal la langue anglaise ?
Oui, non, il y a deux... Non, moi je connais des gens qui parlent très bien anglais, et puis... Non, je pense que c'est vraiment...
Non,
après, c'est une matière de... C'est une histoire de goût, en fait, et ça se discute pas. Je veux dire, après, il peut avoir des arguments, pour moi, c'est pas un vrai débat en ce qui me concerne, mais maintenant, je respecte les avis de tout le monde, mais pour moi, enfin, je pense que c'est... C'est pas un point, en tout cas, pour moi, c'est vraiment...
C'est une question de goût, et puis voilà, et tu l'as dit tout à l'heure, il en faut pour tout le monde, moi je suis bien d'accord avec toi là-dessus, ouais. C'est vrai. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à l'interview, il y a Jean-Pierre Savouillot qui me remet un petit poste, là, qui me met, finalement, Albert Collins et Freddie King, ils jouaient des instrumentaux aussi à leur début, hein, finalement.
Exactement, hein, oui.
Ils faisaient des 45 tours, ça rentrait dans les jukebox, et puis voilà, quoi.
Ouais. Et puis, en fait, moi j'ai vraiment pensé à Freddie King au départ, parce que quand je voulais faire des instrumentaux, je me suis dit quel format je vais faire, comment, et en fait Freddie King, il a fait un nombre incroyable d'instrumentaux qui sont super, et Albert Collins aussi d'ailleurs, donc en fait je pense que c'est juste notre manière de faire qui après, si tu veux, le challenge c'est de se dire comment ça peut exister sur scène, et le fait que les
voilà,
gens
parce que...
quand ils voient un concert de blues, ils sont plus habitués à avoir des choses chantées que des trucs uniquement instrumentaux, quoi. Donc personnellement, moi j'ai fait deux concerts sous mon nom, et en fait les craintes ont été un peu effacées, parce que ça s'est plutôt pas trop mal passé, et je vois que il suffit de penser et bien élaborer son show, entre guillemets, oui. Lors des morceaux, etc., et en fait le fait de pas chanter est pas dramatique, oui. En fait.
Tout à fait. On va revenir à l'album. Je vois sur le line-up, tout simplement, Stanobar Pacha guitare, François Fournet guitare rythmique, Thibaut Chopin qu'on évoquait tout à l'heure à la contrebasse, et j'allais dire bien naturellement, Simon Boyer à la batterie. Ça fait longtemps que vous côtoyez tous les quatre, finalement. C'est un groupe de copains.
Oui, ça fait. François un peu moins, en fait, parce qu'on se connaît depuis 3-4 ans maintenant, mais surtout Thibaut et Simon, ça fait une dizaine d'années qu'on joue ensemble, en fait, quoi.
Simon qui a un jeu très 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 jazzy.
Thibaut, je pense que ça fait une quinzaine d'années qu'on joue ensemble, quoi.
D'accord. Et Simon Boyer, donc, a un jeu très très jazzy, qui accompagne également des musiciens purs New Orleans comme Marc Laferrière. Ça intervient également sur ton jeu de guitare, ce style plus jazzy, plus.
Non, mais une des qualités premières qu'a Simon Boyer, c'est moi je trouve que c'est un batteur incroyable, et surtout que c'est un garçon qui s'adapte très facilement aux gens avec qui il joue, et qui est toujours en écoute, en fait. Moi j'aime beaucoup jouer avec ce batteur, parce que je pense qu'il est, comme on dit, il est toujours sur le coup, quoi. C'est super agréable d'avoir quand j'ai pensé à faire ce disque, c'est le premier batteur qui m'est venu à l'esprit, parce que en plus, moi, c'est vrai que étant guitariste de blues, mais aimant aussi beaucoup le jazz. Et lui, il est un peu sur les deux fronts, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup de blues, mais aussi beaucoup de jazz, et je savais que ça pouvait coller, je savais que la musique que j'allais faire allait coller très bien avec son style et son jeu de batterie, quoi.
Pour en terminer avec les musiciens français, on n'a pas évoqué Patrick Verbeek, tu as parlé de son fils tout à l'heure, Steve, tu as joué avec Steve, tu as enregistré avec lui également, il y a encore Jean-Pierre qui intervient, qui me met la femme du fakir sur le dernier album de Steve en solo aurait pu être un tube national. C'est lui qui dit ça.
C'est
vachement sympa. Monsieur.
J'ai fait trois albums avec Steve. Et,
ouais.
C'est quelqu'un d'important dans ma vie, même tout court, parce que c'est un ami, et puis ça fait des années qu'on joue ensemble aussi, et c'est toujours... ça fait partie des gens... ça fait un peu partie de ma famille musicale, on peut dire, quoi. Avec Benoît... Benoît
Blueboy aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Benoît Blueboy. Oui, Benoît Blueboy qui a l'air d'avoir beaucoup d'importance dans ta vie musicale, hein, dans ton univers musical. C'est vrai que c'est quelqu'un de très très attachant, et puis qui a fait partie, on va dire, de la bande des Quatre Mousquetaires, hein, il y a une trentaine d'années. À l'époque, on parlait de blues français. Il y avait Benoît Blueboy. D'autres noms qui venaient, c'était Patrick Verbeek, c'était Bill de Rheim, et puis c'était Paul Personne. Il n'y avait pas beaucoup d'autres, hein, en fait, à l'époque.
Exactement. Et puis. Tu veux, moi, c'est une chance de l'avoir rencontré, parce que d'une part, quand j'étais gamin, moi, je reprenais ses morceaux avec des copains, et puis surtout, c'est quelqu'un qui a une connaissance du blues assez vaste, quoi. Il m'a fait profiter de tout ça, quoi. Donc c'est une chance, si tu veux. C'est même si moi je m'intéressais bien avant de le connaître, je m'intéressais déjà au blues et je connaissais certains trucs, mais c'est vrai que le fait de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé depuis plus de 20 ans, c'est une chance, parce que on a accès à plein de trucs, quoi.
Est-ce que
il a beaucoup d'expérience, et puis c'est vrai qu'humainement c'est quelqu'un de très attachant aussi, donc c'est un peu tout bénef, quoi.
Tout à fait. Stan Omar Pasha, donc on va dire le plus heureux des hommes, parce que tu viens de sortir un album sous ton nom. Tu joues également sur le dernier album, comme tant d'autres précédemment, de Benoît Blueboy. Tous enregistrés pour le compte de Tempo. Hein. Tempo, c'est une boîte de prod, c'est ça ? Qui s'occupe de la distribution aussi. C'est une boîte de prod qui s'occupe aussi de la distribution ou pas ?
Non, le distributeur, c'est Socadisc.
D'accord, Socadisc.
Mais c'est vrai que le label, c'est Tempo, en fait, et c'est Denis Leblond qui travaille avec Benoît depuis des années, et puis qui a accepté de prendre mon projet dans son label, parce que c'est un label qui est tout nouveau, en fait.
Mm-hmm.
Et donc ça, c'est une super nouvelle.
Et qui dans la foulée, s'occupe également de la distribution du dernier album de Raoul Fissel, qu'on a écouté un petit peu plus avant, en première heure de cette même émission. Écoute Stan, moi je te souhaite le meilleur pour cette année de 2011 qui s'ouvre, et puis je te souhaite d'en vendre le plus possible. Des disques, on peut en trouver partout, des Ready to Go ?
Écoute, c'était à la FNAC jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et là il y a la FNAC qui est à côté de chez moi, j'étais faire un tour, malheureusement il n'y est plus.
Ouais, ça veut dire que tout est parti, tout a été vendu, non? C'était le dossier.
En partie, peut-être, je ne sais pas, il faut que je m'enchaîne sur ça. Sinon, s'il y a des gens qui veulent se procurer mon disque, il suffit de me contacter en tapant mon nom, par exemple, je sais pas, via Facebook, c'est-à-dire Stan Noubar Pasha, et à ce moment-là, je me ferai fort de leur fournir les disques si c'est pas trouvable dans les magasins qui sont autour de chez eux, quoi.
Tout à fait. Écoute, merci à toi. On peut donner peut-être ton email qui figure sur la pochette.
Hein? Oui. Alors mon email, c'est donc stannp@free.fr, c'est-à-dire stannp@free.fr. Voilà.
Je crois que tout le monde a bien noté ça. Si c'est pas le cas, vous passez également un petit coup de fil au 02 31 94 66 66, sur Radio 666, ou vous allez sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Je te remercie Stan pour ta disponibilité, ta gentillesse et ton talent, en tout cas, tout ça en une seule personne. C'est
pas pour souligner. Merci à toi.
Merci
pour cette interview, et puis encore une fois, plein de bonnes choses pour cette année qui s'annonce, quoi.
Merci, de même, exactement. À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir, Stan. Merci. On poursuit avec Ready to Go, justement, le titre qui ouvre cet album de Stan Noubar Pasha. Ready to Go, c'est le titre album du dernier et du premier et du tout nouvel album de Stan Oubar Pacha qu'on vient d'avoir au téléphone. Encore merci pour cette interview. Peut-être également une interview un de ces quatre dans Sweet Home Chicago de l'ami Magic Buck à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album Love and Light, sorti international le 1er janvier dernier et déjà dans les bacs et déjà dans Sweet Home Chicago une semaine après sa sortie. Love and Light, voici un extrait du nouvel album de Magic Buck, ça s'appelle Blues Boot Stomper.
Well, I'm a blues boot stomper, I stomp all night long. Yeah, I'm a blues boot stomper, I stomp all night long.
Donc Foot Stomper, pardon, ça rappelle un petit peu le titre du premier album de Magic Buck en 1998. Voilà, on va se contacter un de ces jours et on va s'organiser une petite interview pour parler de la sortie de cet album, un album qui n'est pas tout à fait en solo, vous en êtes rendu compte. Derrière, il y a Manuto, Westernborn Steel guitare, et également Mike Green qui joue de la mandoline, de l'accordéon sur d'autres titres. Et s'il y a du banjo dans l'album, c'est l'affaire de Tony Zombie. Voilà pour l'album de Magic Buck qui s'appelle Love and Light. On continue avec un petit hommage. C'est vrai que ça fait trois, quatre semaines qu'on n'avait pas eu d'émission. Donc pendant ce temps-là, il y a malheureusement quelques bluesmen octogénaires ou nonagénaires qui ont passé l'arme à gauche. Mais là où c'est pas juste, c'est quand c'est une fille de 53 ans qui nous quitte. Et quand elle s'appelle Robin Rogers, qui est une superbe chanteuse harmoniciste. Et quand on pense qu'on l'a vue il y a quelques années et qu'elle nous avait enchanté sur scène. Notamment, tiens, c'était au Beccar Blues Festival. Je me souviens qu'elle avait joué avec son ami Shari Williams, carrément. Elle avait même fait un duo avec Shari et un trio, on va dire ça maintenant, avec également le chanteur Tad Robinson. Miss Robin Rogers, voilà, qui nous a quittés des suites d'une longue maladie. On va l'écouter dans un album qu'elle avait enregistré il y a quelques temps. Je crois que c'était le tout dernier, Back in the Fire, justement. Ça s'appelle You Don't Know, Robin Rogers. Rest in peace. Elle s'appelait Robin Rogers, c'était son dernier album enregistré pour le compte de Blind Pig Records, 2010, hein, tout récent. Back in the Fire, extrait de cet album, c'était You Don't Know. On continue avec les voix féminines, il y en aura deux autres, à commencer par Cyndi Lauper. Et bien, il fallait bien que je vous le passe cet album, parce que depuis le temps qu'on en parle de l'album blues de Cyndi Lauper, ça s'appelle Memphis Blues, et on retrouve Alan Toussaint, on retrouve B.B. King, on retrouve Charlie Musselwhite, Johnny Long, Ann Peebles, voilà, puis il y a surtout B.B. King qu'il faut retenir. Moi j'adore ce morceau Early in the Morning avec les licks de guitare de B.B. King. Je sais pas comment il a touché pour faire ce truc là. Voilà, c'est chez Naive Records, Memphis Blues, c'est Cyndi Lauper, c'est bien sa voix, écoutez ça.
no more. Now it's early in the morning.
Early in the morning.
Ooh, in the morning.
Early in the morning.
Early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. I went to his best friend's house, but he was out. I knocked on his mother's door. She began to shout.
L'histoire ne dit pas ce qui s'est passé après l'enregistrement de ce morceau. C'était Cyndi Lauper en duo avec B.B. King sur l'album de Cyndi Lauper, Memphis Blues. On va maintenant écouter une vraie chanteuse avec Becky Sue and her Big Rocking Daddies. Vous la connaissez beaucoup moins bien celle-là. Et pourtant, écoutez-moi ça, Big Rocking Boogie, c'est le titre de l'album. Voici Rocket in My Pocket dans la radio.
Let's go someplace so we can
Et voilà, Becky Sue and her big rocking daddies. Il ne faut pas louper la pochette intérieure. Vous voyez la pulpeuse Becky Sue, un petit peu genre Candy Cane, mais un peu moins, un petit peu plus anémique, on va dire, dans les bras de tous ces vieux briscards. Là, voilà, ça vous a un petit côté salace, cette photo. L'album s'appelle Big Rocking Boogie. Voilà une pochette à ne pas mettre dans les mains des gens de moins de 18 ans. On poursuit avec le disque de la semaine. Ah oui, petite info de la part de Christine qui suit l'émission sur Facebook. C'est vrai qu'elle est arrivée un petit peu tard dans l'interview de Stan et elle a oublié de me donner cette info, du moins j'ai pas eu l'info à temps pour vous signaler que Stan Nobar Pasha est le nouveau guitariste du groupe Las Vargas. Voilà, merci Christine pour cette info, Christine du One Way hein, qu'on évoquait tout à l'heure dans l'émission. On continue avec Charles Walker, justement, Soul Steering Stew, disque de la semaine pour ce 839e Sweet Home Chicago sur le 666. Voici le titre album.
We'll be right back.
Voilà, Charles Walker, donc avec Soul Stirring Thing. J'ai complètement oublié de vous parler de la presse blues. C'est pourtant ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, puisque ça fait 3-4 semaines qu'on s'est pas parlé au poste. Donc, à signaler le tout nouveau Blues Magazine, numéro 59, avec Greg Zlapp en couverture. Je vous donnerai les détails la semaine prochaine, je suis désolé. Soul Bag, numéro 201, avec Buddy Guy en couverture. ABS Magazine, numéro 28, avec, comme à l'habitude, pas forcément de couverture sur un bluesman en particulier, mais de très beaux sujets sur Solomon Burke, Allen Toussaint, Little Walter, les Victory Travelers et Révérend K.M. Williams. Également BCR La Revue avec Benoît Blue Boy en couverture, dont on a abondamment parlé dans cette émission. Blues & Co, BCR La Revue numéro 23, voilà. Blues & Co, autrement Blues, avec Véronique Asbergia. Il s'agit non pas du numéro 53, mais du numéro 54. C'est une erreur de pagination. Je vous parlerai de la presse blues en détail dans l'émission de la semaine prochaine, car l'heure va bientôt sonner. On a juste le temps de revenir au disque du mois. Ça serait dommage d'ailleurs de louper ce morceau qui s'appelle Memory for My Happier Years, Monsieur Sven Zetterberg. Imaginez-vous, le début de la chanson, ça fait j'étais en train de nettoyer mon appart et tout d'un coup, il y a quelque chose de brillant qui a attiré mon œil. Je me baisse, je regarde, qu'est-ce que c'est? C'était une bague de fiançailles, c'était la bague de ma première fiancée et tout d'un coup, tout un flot de souvenirs me reviennent à la mémoire. Puis après, c'est la suite, c'est la chanson. Écoutez, ça s'appelle Memory from My Happier Year, Monsieur Sven Zetterberg. C'est avec ça qu'on se quitte pour ce numéro 839 de Sweet Home Chicago. Salut, bye bye.
As I was cleaning my apartment, something shiny caught my eye. On the floor next to the carpet, there laid something almost made me cry. That old ring that I once bought you, that I thought had disappeared. With your name still engraved, a memory from my happier years. I was sweeping out the attic, behind a beam I found something once so dear, a dusty picture of a young couple, another memory from my happier years. Not so often you see old cars in the city, but a familiar sound was drawing near. It came from an old model that we used to ride.